Honoré de Balzac. Mémoire de deux jeunes mariés.
À George Sand. Ceci, cher George, ne saurait rien ajouter à l'éclat de votre nom qui jettera son magique reflet sur ce livre. Mais il n'y a là, de ma part, ni calcul ni modestie. Je désire attester ainsi l'amitié vraie qui s'est continuée entre nous à travers nos voyages et nos absences, malgré nos travaux et les méchancetés du monde. Ce sentiment ne s'altérera sans doute jamais. Le cortège de noms amis qui accompagnera mes compositions mêle un plaisir aux peines que me cause leur nombre, car elles ne vont point sans douleur à ne parler que des reproches encourus par ma menaçante fécondité, comme si le monde qui pose devant moi n'était pas plus fécond encore. Ne sera-ce pas beau, Georges, si quelque jour l'antiquaire des littératures détruites ne retrouve dans ce cortège que de grands noms, de nobles cœurs, de saintes et pures amitiés et les gloires de ce siècle? Ne puis-je me montrer plus fier de ce bonheur certain que de succès toujours contestables? Pour qui vous connaît bien, n'est-ce pas un bonheur que de pouvoir se dire, comme je le fais ici, votre ami? De Balzac, Paris, juin 1840.
Lettre 1 à Mademoiselle Renée de Maucombe. Paris, septembre. Ma chère biche, je suis dehors aussi, moi. Et si tu ne m'as pas écrit à Blois, je suis aussi la première à notre joli rendez-vous de la correspondance. Relève tes beaux yeux noirs attachés sur ma première phrase et garde ton exclamation pour la lettre où je te confierai mon premier amour. On parle toujours du premier amour. Il y en a donc un second? Tais-toi, me diras-tu. Dis plutôt, me demanderas-tu, comment tu es sortie de ce couvent où tu devais faire ta profession? Ma chère, quoi qu'il arrive aux Carmélites, le miracle de ma délivrance est la chose la plus naturelle. Les cris d'une conscience épouvantée ont fini par l'emporter sur les ordres d'une politique inflexible. Voilà tout. Ma tante, qui ne voulait pas me voir mourir de consomption, a vaincu ma mère, qui prescrivait toujours le noviciat comme seul remède à ma maladie. La noire mélancolie où je suis tombée, après ton départ, a précipité cet heureux dénouement. Et je suis dans Paris, mon ange, et je te dois ainsi le bonheur d'y être. Ma Renée, si tu m'avais pu voir le jour où je me suis trouvée sans toi, tu aurais été fière d'avoir inspiré des sentiments si profonds à un cœur si jeune. Nous avons tant rêvé de compagnie, tant deux fois déployé nos ailes, et tant vécu, en somme, que je crois nos âmes soudées l'une à l'autre, comme étaient ces deux filles hongroises dont la mort nous a été racontée par M. Beauvisage, qui n'était certes pas l'homme de son nom. Jamais médecin de couvent ne fut mieux choisi. N'as-tu pas été malade en même temps que ta mignonne? Dans le morne abattement où j'étais, je ne pouvais que reconnaître un à un les liens qui nous unissent. Je les ai crus rompus par l'éloignement. J'ai été prise de dégoût pour l'existence, comme une tourterelle dépareillée. J'ai trouvé de la douceur à mourir, et je mourrai tout doucettement. Être seule aux Carmélites, à Blois, en proie à la crainte d'y faire ma profession sans la préface de Mademoiselle de Lavallière et sans ma Renée. Mais c'était une maladie mortelle. Cette vie monotone où chaque heure amène un devoir, une prière, un travail, si exactement les mêmes, qu'en tout lieu on peut dire ce que fait une carmélite à telle ou telle heure du jour ou de la nuit. Cette horrible existence où il est indifférent que les choses qui nous entourent soient ou ne soient pas, était devenue pour nous la plus variée. L'essor de notre esprit ne connaissait point de bornes. La fantaisie nous avait donné la clé de ces royaumes. Nous étions tour à tour l'une pour l'autre un charmant hippogriffe. La plus alerte réveillait la plus endormie. Et nos âmes folâtraient à l'envi en s'emparant de ce monde qui nous était interdit. Il n'y avait pas jusqu'à la vie des saints qui ne nous aidât à comprendre les choses les plus cachées. Le jour où ta douce compagnie m'était enlevée, je devenais ce qu'est une carmélite à nos yeux, une Danaïde moderne qui, au lieu de chercher à remplir un tonneau sans fond, tire tous les jours de je ne sais quel puits un seau vide, espérant l'amener plein. Ma tante ignorait notre vie intérieure. Elle n'expliquait point mon dégoût de l'existence, elle qui s'est fait un monde céleste dans les deux arpents de son couvent. Pour être embrassée à nos âges, la vie religieuse veut une excessive simplicité que nous n'avons pas, ma chère biche, ou l'ardeur du dévouement, qui rend ma tante une sublime créature. Ma tante s'est sacrifiée à un frère adoré. Mais qui peut se sacrifier à des inconnus ou à des idées? Depuis bientôt 15 jours, j'ai tant de folles paroles rentrées, tant de méditations enterrées au cœur, tant d'observations à communiquer et de récits à faire qui ne peuvent être faits qu'à toi, que sans le pis-aller des confidences écrites, substituées à nos chères causeries, j'étoufferais. Combien la vie du cœur nous est nécessaire! Je commence mon journal ce matin, en imaginant que le tien est commencé, que dans peu de jours, je vivrai au fond de ta belle vallée de Gémenos, dont je ne sais que ce que tu m'en as dit. Comme tu vas vivre dans Paris, dont tu ne connais que ce que nous en rêvions. Or donc, ma belle enfant, par une matinée qui demeurera marquée d'un signet rose dans le livre de ma vie, il est arrivé de Paris une demoiselle de compagnie et Philippe, le dernier valet de chambre de ma grand-mère, envoyé pour m'emmener. Quand, après m'avoir fait venir dans sa chambre, ma tante m'a eu dit cette nouvelle, la joie m'a coupé la parole. Je la regardais d'un air hébété. Mon enfant, m'a-t-elle dit de sa voix gutturale, tu me quittes sans regret, je le vois. Mais cet adieu n'est pas le dernier, nous nous reverrons. Dieu t'a marqué au front du signe des élus. Tu as l'orgueil qui mène également au ciel et à l'enfer. Mais tu as trop de noblesse pour descendre. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. La passion ne sera pas chez toi ce qu'elle est chez les femmes ordinaires. Elle m'a doucement attiré sur elle et baisé au front, en m'y mettant ce feu qui la dévore, qui a noirci l'azur de ses yeux, attendri ses paupières, ridé ses tempes dorées et jauni son beau visage. Elle m'a donné la peau de poule. Avant de répondre, je lui ai baisé les mains. « Chère tante, ai-je dit, si vos adorables bontés ne m'ont pas fait trouver votre paraclet salubre au corps et doux au cœur, je dois verser tant de larmes pour y revenir que vous ne sauriez souhaiter mon retour. Je ne veux retourner ici que trahi par mon Louis XIV, et si j'en attrape un, il n'y a que la mort pour me l'arracher. Je ne craindrai point les Montespan. » Allez, folle, dit-elle en souriant. Ne laissez point ces idées vaines ici, emportez-les, et sachez que vous êtes plus Montespan que la Vallière. Je l'ai embrassée. La pauvre femme n'a pu s'empêcher de me conduire à la voiture, où ses yeux se sont tour à tour fixés sur les armoiries paternelles et sur moi. La nuit m'a surprise à Beaugency, plongée dans un engourdissement moral qu'avait provoqué ce singulier adieu. Que dois-je donc trouver dans ce monde si fort désiré? D'abord, je n'ai trouvé personne pour me recevoir. Les apprêts de mon cœur ont été perdus. Ma mère était au bois de Boulogne, mon père était au conseil, et mon frère, le duc de Rhétoré, ne rentre jamais, m'a-t-on dit, que pour s'habiller avant le dîner. Mademoiselle Griffith, elle a des griffes, et Philippe m'ont conduite à mon appartement. Cet appartement est celui de cette grand-mère tant aimée, la princesse de Vaurémont, à qui je dois une fortune quelconque, de laquelle personne ne m'a rien dit. À ce passage, tu partageras la tristesse qui m'a saisie en entrant dans ce lieu consacré par mes souvenirs. L'appartement était comme elle l'avait laissé. J'allais coucher dans le lit où elle est morte. Assise sur le bord de sa chaise longue, je pleurais, sans voir que je n'étais pas seule. Je pensais que je m'y étais souvent mise à ses genoux pour mieux l'écouter. De là, j'avais vu son visage perdu dans ses dentelles rousses et maigri par l'âge, autant que par les douleurs de l'agonie. Cette chambre me semblait encore chaude de la chaleur qu'elle y entretenait. Comment se fait-il que mademoiselle Armande Louise Marie de Chaulieu soit obligée, comme une paysanne, de se coucher dans le lit de sa mère presque le jour de sa mort? Car il me semblait que la princesse, morte en 1817, avait expiré la veille. Cette chambre m'offrait des choses qui ne devaient pas s'y trouver et qui prouvaient combien les gens occupés des affaires du royaume sont insouciants des leurs. Et combien, une fois morte, on a peu pensé à cette noble femme qui sera l'une des grandes figures féminines du XVIIIe siècle. Philippe a quasiment compris d'où venaient mes larmes. Il m'a dit que par son testament, la princesse m'avait légué ses meubles. Mon père laissait d'ailleurs les grands appartements dans l'état où les avait mis la Révolution. Je me suis levée alors. Philippe m'a ouvert la porte du petit salon qui donne sur l'appartement de réception. Et je l'ai retrouvé dans le délabrement que je connaissais. Les dessus de porte, qui contenaient des tableaux précieux, montrent leurs trumeaux vides. Les marbres sont cassés, les glaces ont été enlevées. Autrefois, j'avais peur de monter le grand escalier et de traverser la vaste solitude de ces hautes salles. J'allais chez la princesse par un petit escalier qui descend sous la voûte du grand et qui mène à la porte dérobée de son cabinet de toilette. L'appartement, composé d'un salon, d'une chambre à coucher et de ce joli cabinet en vermillon et or dont je t'ai parlé, occupe le pavillon du côté des Invalides. L'hôtel n'est séparé du boulevard que par un mur couvert de plantes grimpantes et par une magnifique allée d'arbres qui mêle leurs touffes à celle des ormeaux de la contre-allée du boulevard. Sans le dôme or et bleu, sans les masses grises des Invalides, on se croirait dans une forêt. Le style de ces trois pièces et leur place annoncent l'ancien appartement de parade des duchesses de Chaulieu. Celui des ducs doit se trouver dans le pavillon opposé. Tous deux sont décemment séparés par les deux corps de logis et par le pavillon de la façade, où sont ces grandes salles obscures et sonores que Philippe me montrait encore, dépouillées de leur splendeur, et telles que je les avais vues dans mon enfance. Philippe prit un air confidentiel en voyant l'étonnement peint sur ma figure. « Ma chère, dans cette maison diplomatique, tous les gens sont discrets et mystérieux. » Il me dit alors qu'on attendait une loi par laquelle on rendrait aux émigrés la valeur de leurs biens. Mon père recule la restauration de son hôtel jusqu'au moment de cette restitution. L'architecte du roi avait évalué la dépense à 300 000 livres. Cette confidence eut pour effet de me rejeter sur le sofa de mon salon. Et quoi? Mon père, au lieu d'employer cette somme à me marier, me laissait mourir au couvent? Voilà la réflexion que j'ai trouvée sur le seuil de cette porte. Ah, René, comme je me suis appuyée la tête sur ton épaule! et comme je me suis reportée au jour où ma grand-mère animait ces deux chambres. Elle, qui n'existe que dans mon cœur, toi, qui es à Maucombe, à 200 lieues de moi, voilà les seuls êtres qui m'aiment ou m'ont aimé. Cette chère vieille, au regard si jeune, voulait s'éveiller à ma voix, comme nous nous entendions. Le souvenir a changé tout à coup les dispositions où j'étais d'abord. J'ai trouvé je ne sais quoi de saint à ce qui venait de me paraître une profanation. Il m'a semblé doux de respirer la vague odeur de poudre à la maréchale qui subsistait là, doux de dormir sous la protection de ses rideaux en damas jaunes à dessins blancs, où ses regards et son souffle ont dû laisser quelque chose de son âme. J'ai dit à Philippe de rendre leur lustre aux mêmes objets, de donner à mon appartement la vie propre à l'habitation. J'ai moi-même indiqué comment je voulais y être, en assignant à chaque meuble une place. J'ai passé la revue en prenant possession de tout, en disant comment se pouvaient rajeunir ces antiquités que j'aime. La chambre est d'un blanc un peu terni par le temps, comme aussi l'or des folâtres arabesques montre en quelques endroits des teintes rouges. Mais ces effets sont en harmonie avec les couleurs passées du tapis de la savonnerie qui fut donné par Louis XV à ma grand-mère, ainsi que son portrait. La pendule est un présent du maréchal de Saxe. Les porcelaines de la cheminée viennent du maréchal de Richelieu. Le portrait de ma grand-mère, pris à 25 ans, est dans un cadre ovale en face de celui du roi. Le prince n'y est point. J'aime cet oubli franc, sans hypocrisie, qui peint d'un trait ce délicieux caractère. Dans une grande maladie que fit ma tante, son confesseur insistait pour que le prince, qui attendait dans le salon, entrât. Avec le médecin et ses ordonnances, a-t-elle dit. Le lit est à baldaquin, à dossier rembourré. Les rideaux sont retroussés par des plis d'une belle ampleur. Les meubles sont en bois doré, couverts de ce damas jaune à fleurs blanches, également drapé aux fenêtres, et qui est doublé d'une étoffe de soie blanche qui ressemble à de la moire. Les dessus de porte sont peints, je ne sais par qui, mais ils représentent un lever du soleil et un clair de lune. La cheminée est traitée fort curieusement. On voit que dans le siècle dernier, on vivait beaucoup au coin du feu. Là se passaient de grands événements. Le foyer de cuivre doré est une merveille de sculpture. Le chambranle est d'un fini précieux. La pelle et les pincettes sont délicieusement travaillées. Le soufflet est un bijou. La tapisserie de l'écran vient des Gobelins et sa monture est exquise. Les folles figures qui courent le long, sur les pieds, sur la barre d'appui, sur les branches, sont ravissantes. Tout en est ouvragé comme un éventail. Qui lui avait donné ce joli meuble qu'elle aimait beaucoup? Je voudrais le savoir. Combien de fois je l'ai vu, le pied sur la barre, enfoncé dans sa bergère, sa robe à demi relevée sur le genou, par son attitude, prenant, remettant et reprenant sa tabatière sur la tablette, entre sa boîte à pastilles et ses mitaines de soie. Était-elle coquette? Jusqu'au jour de sa mort, elle a eu soin d'elle, comme si elle se trouvait au lendemain de ce beau portrait, comme si elle attendait la fleur de la cour qui se pressait autour d'elle. Cette bergère m'a rappelé l'inimitable mouvement qu'elle donnait à ses jupes en s'y plongeant. Ces femmes du temps passé emportent avec elles certains secrets qui peignent leur époque. La princesse avait des airs de tête, une manière de jeter ses mots et ses regards, un langage particulier que je ne retrouvais point chez ma mère. Il s'y trouvait de la finesse et de la bonhomie, du dessein sans apprêt. Sa conversation était à la fois prolixe et laconique. Elle comptait bien et peignait en 3 mots. Elle avait surtout cette excessive liberté de jugement qui, certes, a influé sur la tournure de mon esprit. De 7 à 10 ans, j'ai vécu dans ses poches. Elle aimait autant à m'attirer chez elle que j'aimais à y aller. Cette prédilection a été cause de plus d'une querelle entre elle et ma mère. Or, rien n'attise un sentiment autant que le vent glacé de la persécution. Avec quelle grâce, me disait-elle. Vous voilà, petite masque. Quand la couleuvre de la curiosité m'avait prêté ses mouvements pour me glisser entre les portes jusqu'à elle. Elle se sentait aimée. Elle aimait mon naïf amour, qui mettait un rayon de soleil dans son hiver. Je ne sais pas ce qui se passait chez elle le soir, mais elle avait beaucoup de monde. Lorsque je venais le matin, sur la pointe du pied, savoir s'il faisait jour chez elle, je voyais les meubles de son salon dérangés, les tables de jeu dressées, beaucoup de tabac par place. Ce salon est dans le même style que la chambre. Les meubles sont singulièrement contournés. Les bois sont à moulures creuses, à pied de biche. Des guirlandes de fleurs, richement sculptées et d'un beau caractère, serpentent à travers les glaces et descendent le long en festons. Il y a sur les consoles de beaux cornets de la Chine. Le fond de l'ameublement est ponceau et blanc. Ma grand-mère était une brune, fière et piquante. Son teint se devine au choix de ses couleurs. J'ai retrouvé dans ce salon une table à écrire dont les figures avaient beaucoup occupé mes yeux autrefois. Elle est plaquée en argent ciselé. Elle lui a été donnée par un Lomellini de Gênes. Chaque côté de cette table représente les occupations de chaque saison. Les personnages sont en relief. Il y en a des centaines dans chaque tableau. Je suis restée 2 heures toute seule, reprenant mes souvenirs un à un, dans le sanctuaire où a expiré une des femmes de la cour de Louis XV, les plus célèbres, et par son esprit et par sa beauté. Tu sais comme on m'a brusquement séparée d'elle, du jour au lendemain, en 1816. « Allez dire adieu à votre grand-mère, » me dit ma mère. J'ai trouvé la princesse, non pas surprise de mon départ, mais insensible en apparence. Elle m'a reçue comme à l'ordinaire. « Tu vas au couvent, mon bijou, » me dit-elle. « Tu y verras ta tante, une excellente femme. J'aurai soin que tu ne sois point sacrifiée. » Tu seras indépendante et à même de marier qui tu voudras. » Elle est morte 6 mois après. Elle avait remis son testament au plus assidu de ses vieux amis, au prince de Talleyrand, qui, en faisant une visite à mademoiselle de Chargebœuf, a trouvé le moyen de me faire savoir, par elle, que ma grand-mère me défendait de prononcer des vœux. J'espère bien que tôt ou tard je rencontrerai le prince. Et sans doute, il m'en dira davantage. Ainsi, ma belle biche, si je n'ai trouvé personne pour me recevoir, je me suis consolée avec l'ombre de la chère princesse, et je me suis mise en mesure de remplir une de nos conventions, qui est, souviens-t'en, de nous initier aux plus petits détails de notre case et de notre vie. Il est si doux de savoir où et comment vit l'être qui nous est cher. Dépeins-moi bien les moindres choses qui t'entourent, tout, enfin, même les effets du couchant dans les grands arbres. 10 octobre. J'étais arrivée à 3 heures après-midi. Vers 5h30, Rose est venue me dire que ma mère était rentrée, et je suis descendue pour lui rendre mes respects. La mère occupe au rez-de-chaussée un appartement disposé, comme le mien, dans le même pavillon. Je suis au-dessus d'elle, et nous avons le même escalier dérobé. Mon père est dans le pavillon opposé. Mais, comme du côté de la cour, il a de plus l'espace que prend dans le nôtre le grand escalier, son appartement est beaucoup plus vaste que les nôtres. Malgré les devoirs de la position que le retour des Bourbons leur a rendue, mon père et ma mère continuent d'habiter le rez-de-chaussée et peuvent y recevoir, tant sont grandes les maisons de nos pères. J'ai trouvé ma mère dans son salon où il n'y a rien de changé. Elle était habillée. De marche en marche, je m'étais demandé comment serait pour moi cette femme qui a été si peu mère que je n'ai reçu d'elle, en 8 ans, que les 2 lettres que tu connais. En pensant qu'il était indigne de moi de jouer une tendresse impossible, je m'étais composée en religieuse idiote et suis entrée assez embarrassée intérieurement. Cet embarras s'est bientôt dissipé. Ma mère a été d'une grâce parfaite. Elle ne m'a pas témoigné de fausse tendresse. Elle n'a pas été froide. Elle ne m'a pas traitée en étrangère. Elle ne m'a pas mise dans son sein comme une fille aimée. Elle m'a reçue comme si elle m'eût vue la veille. Elle a été la plus douce, la plus sincère amie. Elle m'a parlé comme à une femme faite et m'a d'abord embrassée au front. « Ma chère petite, si vous devez mourir au couvent, m'a-t-elle dit, il vaut mieux vivre au milieu de nous. Vous trompez les desseins de votre père et les miens, mais nous ne sommes plus au temps où les parents étaient aveuglément obéis. L'intention de monsieur de Chaulieu, qui s'est trouvé d'accord avec la mienne, est de ne rien négliger pour vous rendre la vie agréable et de vous laisser voir le monde. À votre âge, j'eusse pensé comme vous. Aussi, je ne vous en veux point. Vous ne pouvez comprendre ce que nous vous demandions. Vous ne me trouverez point d'une sévérité ridicule. Si vous avez soupçonné mon cœur, vous reconnaîtrez bientôt que vous vous trompiez. Quoique je veuille vous laisser parfaitement libre, je crois que pour les premiers moments, vous ferez sagement d'écouter les avis d'une mère qui se conduira comme une sœur avec vous. » La duchesse parlait d'une voix douce et remettait en ordre ma pèlerine de pensionnaire. Elle m'a séduite. À 38 ans, elle est belle comme un ange. Elle a des yeux d'un noir bleu, des cils comme des soies, un front sans plis, un teint blanc et rose à faire croire qu'elle se farde, des épaules et une poitrine étonnantes, une taille cambrée et mince comme la tienne, une main d'une beauté rare. C'est une blancheur de lait, des ongles où séjourne la lumière tant ils sont polis, le petit doigt légèrement écarté, le pouce d'un fini d'ivoire. Enfin, elle a le pied de sa main, le pied espagnol de Mademoiselle de Vandenesse. Si elle est ainsi à 40, elle sera belle encore à 60 ans. J'ai répondu, ma biche, en fille soumise. J'ai été pour elle ce qu'elle a été pour moi. J'ai même été mieux. Sa beauté m'a vaincue. Je lui ai pardonné son abandon. J'ai compris qu'une femme comme elle avait été entraînée par son rôle de reine. Je le lui ai dit naïvement, comme si j'eusse causé avec toi. Peut-être ne s'attendait-elle pas à trouver un langage d'amour dans la bouche de sa fille. Les sincères hommages de mon admiration l'ont infiniment touchée. Ses manières ont changé, sont devenues plus gracieuses encore. Elle a quitté le vous. Tu es une bonne fille, et j'espère que nous resterons amis. Ce mot m'a paru d'une adorable naïveté. Je n'ai pas voulu lui faire voir comment je le prenais, car j'ai compris aussitôt que je dois lui laisser croire qu'elle est beaucoup plus fine et plus spirituelle que sa fille. J'ai donc fait la niaise. Elle a été enchantée de moi. Je lui ai baisé les mains à plusieurs reprises, en lui disant que j'étais bien heureuse qu'elle agît ainsi avec moi, que je me sentais à l'aise, et je lui ai même confié ma terreur. Elle a souri, m'a prise par le cou pour m'attirer à elle, et me baiser au front par un geste plein de tendresse. « Cher enfant, a-t-elle dit, nous avons du monde à dîner aujourd'hui. Vous penserez peut-être comme moi qu'il vaut mieux attendre que la couturière vous ait habillée pour faire votre entrée dans le monde. Ainsi, après avoir vu votre père et votre frère, vous remonterez chez vous. » Ce à quoi j'ai de grand cœur acquiescé. La ravissante toilette de ma mère était la première révélation de ce monde entrevu dans nos rêves. Mais je ne me suis pas senti le moindre mouvement de jalousie. Mon père est entré. « Monsieur, voilà votre fille, lui a dit la duchesse. Mon père a pris soudain pour moi les manières les plus tendres. Il a si parfaitement joué son rôle de père que je lui en ai cru le cœur. Vous voilà donc, fille rebelle, m'a-t-il dit en me prenant les deux mains dans les siennes et me les baisant avec plus de galanterie que de paternité. Et il m'a attirée sur lui, m'a prise par la taille, m'a serrée pour m'embrasser sur les joues et au front. Vous réparerez le chagrin que nous cause votre changement de vocation par les plaisirs que nous donnerons vos succès dans le monde. Savez-vous, madame, qu'elle sera fort jolie et que vous pourrez être fière d'elle un jour. Voici votre frère rétoré. Alphonse, dit-il à un beau jeune homme qui est entré, voilà votre sœur la religieuse qui veut jeter le froc aux orties. Mon frère est venu sans trop se presser, m'a pris la main et me l'a serrée. Embrassez-la donc, lui a dit le duc. Et il m'a baisé sur chaque joue. Je suis enchanté de vous voir, ma sœur, m'a-t-il dit, et je suis de votre parti contre mon père. Je l'ai remercié, mais il me semble qu'il aurait bien pu venir à Blois quand il allait à Orléans voir notre frère le marquis à sa garnison. Je me suis retiré en craignant qu'il n'arrivât des étrangers. J'ai fait quelques rangements chez moi, j'ai mis sur le velours ponceau de la belle table tout ce qu'il me fallait pour t'écrire, en songeant à ma nouvelle position. Voilà, ma belle biche blanche, ni plus ni moins, comment les choses se sont passées au retour d'une jeune fille de 18 ans, après une absence de 9 années, dans une des plus illustres familles du royaume. Le voyage m'avait fatigué, et aussi les émotions de ce retour en famille. Je me suis donc couché comme au couvent, à 8 heures, après avoir soupé. L'on a conservé jusqu'à un petit couvert de porcelaine de Saxe que cette chère princesse gardait pour manger seule chez elle, quand elle en avait la fantaisie. Chapitre 2. La même à la même. Le lendemain, j'ai trouvé mon appartement mis en ordre et fait par le vieux Philippe, qui avait mis des fleurs dans les cornets. Enfin, je me suis installée. Seulement, personne n'avait songé qu'une pensionnaire des Carmélites a faim de bonheur, et Rose a eu 1000 peines à me faire déjeuner. Mademoiselle s'est couchée à l'heure où l'on a servi le dîner, et se lève au moment où Monseigneur vient de rentrer, m'a-t-elle dit. Je me suis mise à écrire. Vers 1 heure, mon père a frappé à la porte de mon petit salon et m'a demandé si je pouvais le recevoir. Je lui ai ouvert la porte, il est entré et m'a trouvée écrivant. « Ma chère, vous avez à vous habiller, à vous arranger ici. Vous trouverez 12 000 francs dans cette bourse. C'est une année du revenu que je vous accorde pour votre entretien. Vous vous entendrez avec votre mère pour prendre une gouvernante qui vous convienne, si Miss Griffiths ne vous plaît pas, car Madame de Chaulieu n'aura pas le temps de vous accompagner le matin. Vous aurez une voiture à vos ordres et un domestique. » Laissez-moi, Philippe, lui dis-je. Soit, répondit-il, mais n'ayez nul souci. Votre fortune est assez considérable pour que vous ne soyez à charge ni à votre mère ni à moi. Serais-je indiscrète en vous demandant quelle est ma fortune ? Nullement, mon enfant, a-t-il dit. Votre grand-mère vous a laissé 500 000 francs qui étaient ses économies, car elle n'a point voulu frustrer sa famille d'un seul morceau de terre. Cette somme a été placée sur le grand livre. L'accumulation des intérêts a produit aujourd'hui environ 40 000 francs de rente. Je voulais employer cette somme à constituer la fortune de votre second frère. Aussi, dérangez-vous beaucoup mes projets. Mais dans quelque temps peut-être, y concourrez-vous. J'attendrai tout de vous-même. Vous me paraissez plus raisonnable que je ne le croyais. Je n'ai pas besoin de vous dire comment se conduit une demoiselle de Chaulieu. La fierté peinte dans vos traits est mon surgarant. Dans notre maison, les précautions que prennent les petites gens pour leurs filles sont injurieuses. Une médisance sur votre compte peut coûter la vie à celui qui se la permettrait, ou à l'un de vos frères, si le ciel était injuste. Je ne vous en dirai pas davantage sur ce chapitre. Adieu, chère petite. Il m'a baisé au front et s'est en allé. Après une persévérance de 9 années, je ne m'explique pas l'abandon de ce plan. Mon père a été d'une clarté que j'aime. Il n'y a dans sa parole aucune ambiguïté. Ma fortune doit être à son fils le marquis. Qui donc a eu des entrailles? Est-ce ma mère? Est-ce mon père? Serait-ce mon frère? Je suis restée assise sur le sofa de ma grand-mère, les yeux sur la bourse que mon père avait laissée sur la cheminée, à la fois satisfaite et mécontente de cette attention qui maintenait ma pensée sur l'argent. Il est vrai que je n'ai plus à y songer. Mes doutes sont éclaircis, et il y a quelque chose de digne à m'éviter toute souffrance d'orgueil à ce sujet. Philippe a couru toute la journée chez les différents marchands et ouvriers qui vont être chargés d'opérer ma métamorphose. Une célèbre couturière, une certaine Victorine, est venue, ainsi qu'une lingère et un cordonnier. Je suis impatiente, comme un enfant, de savoir comment je serai lorsque j'aurai quitté le sac où nous enveloppait le costume conventuel. Mais tous ces ouvriers veulent beaucoup de temps. Le tailleur de corset demande 8 jours si je ne veux pas gâter ma taille. Cela devient grave. J'ai donc une taille. Janssen, le cordonnier de l'opéra, m'a positivement assuré que j'avais le pied de ma mère. J'ai passé toute la matinée à ses occupations sérieuses. Il est venu jusqu'à un gantier qui a pris mesure de ma main. La lingère a eu mes ordres. À l'heure de mon dîner, qui s'est trouvée celle du déjeuner, ma mère m'a dit que nous irions ensemble chez les modistes pour les chapeaux, afin de me donner le goût et me mettre à même de commander les miens. Je suis étourdie de ce commencement d'indépendance, comme un aveugle qui recouvrerait la vue. Je puis juger de ce qu'est une carmélite à une fille du monde. La différence est si grande que nous n'aurions jamais pu la concevoir. Pendant ce déjeuner, mon père fut distrait et nous le laissâmes à ses idées. Il est fort avant dans les secrets du roi. J'étais parfaitement oubliée. Il se souviendra de moi quand je lui serai nécessaire. J'ai vu cela. Mon père est un homme charmant malgré ses 50 ans. Il a une taille jeune, il est bien fait, il est blond, il a une tournure et des grâces exquises. Il a la figure à la fois parlante et muette des diplomates. Son nez est mince et long, ses yeux sont bruns. Quel joli couple! Combien de pensées singulières m'ont assaillie en voyant clairement que ces deux êtres, également nobles, riches, supérieurs, ne vivent point ensemble, n'ont rien de commun que le nom, et se maintiennent unis aux yeux du monde. L'élite de la cour et de la diplomatie était hier là. Dans quelques jours, je vais à un bal chez la duchesse de Maufrigneuse, et je serai présentée à ce monde que je voudrais tant connaître. Il va venir tous les matins un maître de danse. Je dois savoir danser dans un mois, sous peine de ne pas aller au bal. Ma mère, avant le dîner, est venue me voir relativement à ma gouvernante. J'ai gardé Miss Griffiths, qui lui a été donnée par l'ambassadeur d'Angleterre. Cette Miss est la fille d'un ministre. Elle est parfaitement élevée. Sa mère était noble. Elle a 36 ans. Elle m'apprendra l'anglais. Ma Griffiths est assez belle pour avoir des prétentions. Elle est pauvre et fière. Elle est écossaise. Elle sera mon chaperon. Elle couchera dans la chambre de Rose. Rose sera aux ordres de Miss Griffiths. J'ai vu sur le champ que je gouvernerai ma gouvernante. Depuis 6 jours que nous sommes ensemble, Elle a parfaitement compris que moi seule puis m'intéresser à elle. Moi, malgré sa contenance de statue, je compris parfaitement qu'elle sera très complaisante pour moi. Elle me semble une bonne créature, mais discrète. Je n'ai rien pu savoir de ce qui s'est dit entre elle et ma mère. Autre nouvelle qui me paraît peu de chose. Ce matin, mon père a refusé le ministère qui lui a été proposé. De là sa préoccupation de la veille. Il préfère une ambassade, a-t-il dit, aux ennuis des discussions publiques. L'Espagne lui sourit. J'ai su ses nouvelles au déjeuner, seul moment de la journée où mon père, ma mère, mon frère se voient dans une sorte d'intimité. Les domestiques ne viennent alors que quand on les sonne. Le reste du temps, mon frère est absent aussi bien que mon père. Ma mère s'habille, elle n'est jamais visible de 2 heures à 4. À 4 heures, elle sort pour une promenade d'une heure. Elle reçoit de 6 à 7 quand elle ne dîne pas en ville. Puis la soirée est employée par les plaisirs, le spectacle, le bal, les concerts, les visites. Enfin, sa vie est si remplie que je ne crois pas qu'elle ait un quart d'heure à elle. Elle doit passer un temps assez considérable à sa toilette du matin, car elle est divine au déjeuner, qui a lieu entre 11 heures et midi. Je commence à m'expliquer les bruits qui se font chez elle. Elle prend d'abord un bain, presque froid, et une tasse de café à la crème, et froid. Puis elle s'habille. Elle n'est jamais éveillée avant 9 heures, excepté les cas extraordinaires. L'été, il y a des promenades matinales à cheval. À 2 heures, elle reçoit un jeune homme que je n'ai pu voir encore. Voilà notre vie de famille. Nous nous rencontrons à déjeuner et à dîner. Mais je suis souvent seule avec ma mère à ce repas. Je devine que, plus souvent encore, je dînerai seule chez moi avec Miss Griffiths, comme faisait ma grand-mère. Ma mère dîne souvent en ville. Je ne m'étonne plus du peu de soucis de ma famille pour moi. Ma chère, à Paris, il y a de l'héroïsme à aimer les gens qui sont auprès de vous, car nous ne sommes pas souvent avec nous-mêmes. Comme on oublie les absents dans cette ville. Et cependant, je n'ai pas encore mis le pied dehors, je ne connais rien. J'attends que je sois déniaisée, que ma mise et mon air soient en harmonie avec ce monde dont le mouvement m'étonne, quoique je n'en entende le bruit que de loin. Je ne suis encore sortie que dans le jardin. Les Italiens commencent à chanter dans quelques jours. Ma mère y a une loge. Je suis comme folle du désir d'entendre la musique italienne et de voir un opéra français. Je commence à rompre les habitudes du couvent pour prendre celles de la vie du monde. Je t'écris le soir jusqu'au moment où je me couche, qui maintenant est reculé jusqu'à 10 heures, l'heure à laquelle ma mère sort quand elle ne va pas à quelque théâtre. Il y a 12 théâtres à Paris. Je suis d'une ignorance crasse, et je lis beaucoup, mais je lis indistinctement. Un livre me conduit à un autre. Je trouve les titres de plusieurs ouvrages sur la couverture de celui que j'ai. Mais personne ne peut me guider, en sorte que j'en rencontre de fort ennuyeux. Ce que j'ai lu de la littérature moderne roule sur l'amour, le sujet qui nous occupe étant, puisque toute notre destinée est faite par l'homme et pour l'homme. Mais combien ces auteurs sont au-dessous de 2 petites filles nommées la Biche Blanche et la Mignonne, Renée et Louise. Ah, cher ange, quels pauvres événements, quelle bizarrerie, et combien l'expression de ce sentiment est mesquine. 2 livres, cependant, m'ont étrangement plu. L'un est Corinne et l'autre Adolphe. À propos de ceci, j'ai demandé à mon père si je pourrais voir Madame de Staël. Ma mère, mon père et Alphonse se sont mis à rire. Alphonse a dit « Mais d'où vient-elle donc ?» Mon père a répondu « Nous sommes bien niées, elle vient des Carmélites. Ma fille, Madame de Staël, est morte, m'a dit la duchesse avec douceur. Comment une femme peut-elle être trompée? Ai-je dit à Miss Griffiths en terminant Adolphe. Mais quand elle aime, m'a dit Miss Griffiths. Dites donc, René, est-ce qu'un homme pourra nous tromper? Miss Griffiths a fini par entrevoir que je ne suis sotte qu'à demi, que j'ai une éducation inconnue, celle que nous nous sommes donnée l'une à l'autre, en raisonnant à perte de vue. Elle a compris que mon ignorance porte seulement sur les choses extérieures. La pauvre créature m'a ouvert son cœur. Cette réponse laconique, mise en balance contre tous les malheurs imaginables, m'a causé un léger frisson. La Griffiths me répéta de ne me laisser éblouir par rien dans le monde et de me défier de tout, principalement de ce qui me plaira le plus. Elle ne sait et ne peut rien me dire de plus. Ce discours est trop monotone. Elle se rapproche en ceci de la nature de l'oiseau qui n'a qu'un cri. Chapitre 3. De la même à la même. Décembre. Ma chérie, me voici prête à entrer dans le monde. Aussi ai-je tâché d'être bien folle avant de me composer pour lui. Ce matin, après beaucoup d'essais, je me suis vue bien et dûment corsetée, chaussée, serrée, coiffée, habillée, parée. J'ai fait comme les duellistes avant le combat. Je me suis exercée à huis clos. J'ai voulu me voir sous les armes. Je me suis, de très bonne grâce, trouvé un petit air vainqueur et triomphant, auquel il faudra se rendre. Je me suis examinée et jugée. J'ai passé la revue de mes forces en mettant en pratique cette belle maxime de l'Antiquité. Connais-toi toi-même. J'ai eu des plaisirs infinis en faisant ma connaissance. Griffiths a été seule dans le secret de ma jouerie à la poupée. J'étais à la fois la poupée et l'enfant. Tu crois me connaître? Point. Voici, René, le portrait de ta sœur autrefois déguisée en carmélite et ressuscitée en fille légère et mondaine. La Provence exceptée, je suis une des plus belles personnes de France. Ceci me paraît le vrai sommaire de cet agréable chapitre. J'ai des défauts, mais si j'étais homme, je les aimerais. Ces défauts viennent des espérances que je donne. Quand on a, 15 jours durant, admiré l'exquise rondeur des bras de sa mère, et que cette mère est la duchesse de Chaulieu, ma chère, on se trouve malheureuse en se voyant des bras maigres. Mais on s'est consolé en trouvant le poignet fin, une certaine suavité de linéament dans ses creux, qu'un jour une chair satinée viendra poteler, arrondir et modeler. Le dessin un peu sec du bras se retrouve dans les épaules. À la vérité, je n'ai pas d'épaules, mais de dures omoplates qui forment deux plans heurtés. Ma taille est également sans souplesse, les flancs sont raides. Ouf, j'ai tout dit. Mais ces profils sont fins et fermes. La santé mord de sa flamme vive et pure, ses lignes nerveuses. La vie et le sang bleu coulent à flots sous une peau transparente. Mais la plus blonde fille d'Ève, la blonde, est une négresse à côté de moi. Mais j'ai un pied de gazelle. Mais toutes les entournures sont délicates et je possède les traits corrects d'un dessin grec. Les tons de chair ne sont pas fondus, c'est vrai, mademoiselle, mais ils sont vivaces. Je suis un très joli fruit vert et j'en ai la grâce verte. Enfin, je ressemble à la figure qui, dans le vieux missel de ma tante, s'élève d'un lys violâtre. Mes yeux bleus ne sont pas bêtes, ils sont fiers, entourés de deux marges de nacre vive, nuancées par de jolies fibrilles, et sur lesquelles mes cils, longs et pressés, ressemblent à des franges de soie. Mon front étincelle, mes cheveux ont les racines délicieusement plantées. Ils offrent de petites vagues d'or pâle, brunies dans les milieux, et d'où s'échappent quelques cheveux mutins, qui disent assez que je ne suis pas une blonde fade et à évanouissement, mais une blonde méridionale et pleine de sang, une blonde qui frappe au lieu de se laisser atteindre. Le coiffeur ne voulait-il pas me les lisser en deux bandeaux et me mettre sur le front une perle retenue par une chaîne d'or en me disant que j'aurais l'air Moyen-Âge? Apprenez que je n'ai pas assez d'âge pour en être au moyen et pour mettre un ornement qui rajeunisse. Mon nez est mince, les narines sont bien coupées et séparées par une charmante cloison rose. Il est impérieux, moqueur, et son extrémité est trop nerveuse pour jamais ni grossir ni rougir. Ma chère biche, si ce n'est pas à faire prendre une fille sans dot, je ne m'y connais pas. Mes oreilles ont des enroulements coquets. Une perle à chaque bout y paraîtra jaune. Mon col est long, il a ce mouvement serpentin qui donne tant de majesté. Dans l'ombre, sa blancheur se dore. Ah ! J'ai peut-être la bouche un peu grande, mais elle est si expressive. Les lèvres sont d'une si belle couleur, les dents rient de si bonne grâce. Et puis, ma chère, tout est en harmonie. On a une démarche, on a une voix. L'on se souvient des mouvements de jupe de son aïeul qui n'y touchait jamais. Enfin, je suis belle et gracieuse. Suivant ma fantaisie, je puis rire comme nous avons ri souvent, et je serai respectée. Il y aura je ne sais quoi d'imposant dans les fossettes que, de ses doigts légers, la plaisanterie fera dans mes joues blanches. Je puis baisser les yeux et me donner un cœur de glace sous mon front de neige. Je puis offrir le cou mélancolique du cygne en me posant en madone, et les vierges dessinées par les peintres seront à 100 pics au-dessous de moi. Je serai plus haut qu'elles dans le ciel. Un homme sera forcé, pour me parler, de musiquer sa voix. Je suis donc armée de toutes pièces et puis parcourir le clavier de la coquetterie depuis les notes les plus graves jusqu'au jeu le plus flûté. C'est un immense avantage que de ne pas être uniforme. Ma mère n'est ni folâtre, ni virginale. Elle est exclusivement digne, imposante. Elle ne peut sortir de là que pour devenir Léonine. Quand elle blesse, elle guérit difficilement. Moi, je saurais blesser et guérir. Je suis tout autre encore que ma mère. Aussi n'y a-t-il pas de rivalité possible entre nous. À moins que nous ne nous disputions sur le plus ou le moins de perfection de nos extrémités, qui sont semblables. Je tiens de mon père. Il est fin et délié. J'ai les manières de ma grand-mère et son charmant ton de voix. Une voix de tête quand elle est forcée. Une mélodieuse voix de poitrine dans le médium du tête-à-tête. Il me semble que c'est seulement aujourd'hui que j'ai quitté le couvent. Je n'existe pas encore pour le monde, je lui suis inconnue. Quel délicieux moment! Je m'appartiens encore comme une fleur qui n'a pas été vue et qui vient d'éclore. Eh bien, mon ange, quand je me suis promenée dans mon salon en me regardant, quand j'ai vu l'ingénue défroque de la pensionnaire, j'ai eu je ne sais quoi dans le cœur. Regret du passé, inquiétude sur l'avenir, crainte du monde, adieu à nos pâles marguerites, innocemment cueillies, effeuillées insouciamment. Il y avait de tout cela, mais il y avait aussi de ces idées fantasques que je renvoie dans les profondeurs de mon âme, où je n'ose descendre, et d'où elles viennent. Ma Renée, J'ai un trousseau de mariée. Le tout est bien rangé, parfumé dans les tiroirs de cèdre et à devant de lac du délicieux cabinet de toilette. J'ai rubans, chaussures, gants, tout en profusion. Mon père m'a donné gracieusement les bijoux de la jeune fille. Un nécessaire, une toilette, une cassolette, un éventail, une ombrelle, un livre de prière, une chaîne d'or, un cachemire. Il m'a promis de me faire apprendre à monter à cheval. Enfin, je sais danser. Demain, oui, demain soir, je suis présentée. Ma toilette est une robe de mousseline blanche. J'ai pour coiffure une guirlande de roses blanches à la grecque. Je prendrai mon air de madone. Je veux être bien niaise et avoir les femmes pour moi. Ma mère est à mille lieues de ce que je t'écris. Elle me croit incapable de réflexion. Si elle lisait ma lettre, elle serait stupide d'étonnement. Mon frère m'honore d'un profond mépris et me continue les bontés de son indifférence. C'est un beau jeune homme, mais quinteux et mélancolique. J'ai son secret. Ni le duc ni la duchesse ne l'ont deviné. Quoique duc et jeune, il est jaloux de son père. Il n'est rien dans l'état. Il n'a point de charge à la cour. Il n'a point à dire « Je vais à la chambre ». Il n'y a que moi dans la maison qui ai 16 heures pour réfléchir. Mon père est dans les affaires publiques et dans ses plaisirs. Ma mère est occupée aussi. Personne ne réagit sur soi dans la maison. On est toujours dehors. Il n'y a pas assez de temps pour la vie. Je suis curieuse, à l'excès, de savoir quel attrait invincible a le monde pour vous garder tous les soirs, de 9 heures à 2 ou 3 heures du matin, pour vous faire faire tant de frais et supporter tant de fatigue. En désirant y venir, je n'imaginais pas de pareilles distances, de semblables enivrements. Mais, à la vérité, j'oublie qu'il s'agit de Paris. Ainsi donc, on peut vivre les uns auprès des autres, en famille, et ne pas se connaître. Une quasi-religieuse arrive. En 15 jours, elle aperçoit ce qu'un homme d'État ne voit pas dans sa maison. Peut-être le voit-il, et y a-t-il de la paternité dans son aveuglement volontaire? Je sonderai ce coin obscur. Lettre 4, de la même à la même. 15 décembre. Hier, à 2 heures, je suis allée me promener aux Champs-Élysées et au bois de Boulogne par une de ces journées d'automne comme nous en avons tant admiré sur les bords de la Loire. J'ai donc enfin vu Paris. L'aspect de la place Louis XV est vraiment beau, mais de ce beau que créent les hommes. J'étais bien mise, mélancolique, quoique bien disposée à rire. La figure calme, sous un charmant chapeau, les bras croisés. Je n'ai pas recueilli le moindre sourire. Je n'ai pas fait rester un seul pauvre petit jeune homme hébété sur ses jambes. Personne ne s'est retourné pour me voir. Et cependant, la voiture allait avec une lenteur en harmonie avec ma pose. Je me trompe. Un duc charmant qui passait a brusquement retourné son cheval. Cet homme qui, pour le public, a sauvé mes vanités, était mon père, dont l'orgueil, me dit-il, venait d'être agréablement flatté. J'ai rencontré ma mère, qui m'a, du bout de doigt, envoyé un petit salut qui ressemblait à un baiser. Ma Gwyphis, qui ne se défiait de personne, regardait à tort et à travers. Selon mon idée, une jeune personne doit toujours savoir où elle pose son regard. J'étais furieuse. Un homme a très sérieusement examiné ma voiture, sans faire attention à moi. Ce flatteur était probablement un carrossier. Je me suis trompée dans l'évaluation de mes forces. La beauté, ce rare privilège que Dieu seul donne, est donc plus commune à Paris que je ne le pensais. Des minaudières ont été gracieusement saluées. À des visages empourprés, les hommes se sont dit « La voilà !» Ma mère a été prodigieusement admirée. Cette énigme a un mot et je le chercherai. Les hommes, ma chère, m'ont paru généralement très laids. Ceux qui sont beaux nous ressemblent en mal. Je ne sais quel fatal génie a inventé leur costume. Il est surprenant de gaucherie quand on le compare à celui des siècles précédents. Il est sans éclat, sans couleur ni poésie. Il ne s'adresse ni au sens, ni à l'esprit, ni à l'œil, et il doit être incommode. Il est sans ampleur et courté. Le chapeau surtout m'a frappé. C'est un tronçon de colonne. Il ne prend point la forme de la tête, mais il est, m'a-t-on dit, plus facile de faire une révolution que de rendre les chapeaux gracieux. La bravoure en France recule devant un feutre rond, et faute de courage, pendant une journée, on y reste ridiculement coiffé pendant toute la vie. Et l'on dit les Français légers. Les hommes sont d'ailleurs parfaitement horribles, de quelque façon qu'ils se coiffent. Je n'ai vu que des visages fatigués et durs, où il n'y a ni calme ni tranquillité. Les lignes sont heurtées et les rides annoncent des ambitions trompées, des vanités malheureuses. Un beau front est rare. « Ah, voilà les Parisiens !» disais-je à Miss Griffiths. « Des hommes bien aimables et bien spirituels, » m'a-t-elle répondu. Je me suis tue. Une fille de 36 ans a bien de l'indulgence au fond du cœur. Le soir, je suis allée au bal et m'y suis tenue aux côtés de ma mère, qui m'a donné le bras avec un dévouement bien récompensé. Les honneurs étaient pour elle. J'ai été le prétexte des plus agréables flatteries. Elle a eu le talent de me faire danser avec des imbéciles qui m'ont tous parlé de la chaleur comme si j'eusse été gelée, et de la beauté du bal comme si j'étais aveugle. Aucun n'a manqué de s'extasier sur une chose étrange, inouïe, extraordinaire, singulière, bizarre. C'est de m'y voir pour la première fois. Ma toilette, qui me ravissait dans mon salon blanc et or, où je paradais toute seule, était à peine remarquable au milieu des parures merveilleuses de la plupart des femmes. Chacune d'elles avait ses fidèles. Elles s'observaient toutes du coin de l'œil. Plusieurs brillaient d'une beauté triomphante, comme était ma mère. Au bal, une jeune personne ne compte pas. Elle y est une machine à danser. Les hommes, à de rares exceptions près, ne sont pas mieux là qu'aux Champs-Élysées. Ils sont usés, leurs traits sont sans caractère, ou plutôt, ils ont tous le même caractère. Ces mines fières et vigoureuses que nos ancêtres ont dans leurs portraits, eux qui joignaient à la force physique la force morale, n'existent plus. Cependant, il s'est trouvé dans cette assemblée un homme d'un grand talent qui tranchait sur la masse par la beauté de sa figure, mais il ne m'a pas causé la sensation vive qu'il devait communiquer. Je ne connais pas ses œuvres et il n'est pas gentilhomme. Quel que soit le génie et les qualités d'un bourgeois ou d'un homme anobli, je n'ai pas dans le sang une seule goutte pour eux. D'ailleurs, je l'ai trouvé si fort occupé de lui, si peu des autres, qu'il m'a fait penser que nous devons être des choses et non des êtres pour ces grands chasseurs d'idées. Quand les hommes de talent aiment, ils ne doivent plus écrire, ou ils n'aiment pas. Il y a quelque chose dans leur cervelle qui passe avant leur maîtresse. Il m'a semblé voir tout cela dans la tournure de cet homme qui est, dit-on, professeur, parleur, auteur, et que l'ambition rend serviteur de toute grandeur. J'ai pris mon parti sur le champ. J'ai trouvé très indigne de moi d'en vouloir au monde de mon peu de succès. Et je me suis mise à danser, sans aucun souci. J'ai d'ailleurs trouvé du plaisir à la danse. J'ai entendu force, commérage, sans piquant sur des gens inconnus. Mais peut-être est-il nécessaire de savoir beaucoup de choses que j'ignore pour les comprendre, car j'ai vu la plupart des femmes et des hommes prenant un très vif plaisir à dire ou entendre certaines phrases. Le monde offre énormément d'énigmes, dont le mot paraît difficile à trouver. Il y a des intrigues multipliées. J'ai des yeux assez perçants et l'ouïe fine. Quant à l'entendement, vous le connaissez, mademoiselle de Maucombe. Je suis revenue lasse et heureuse de cette lassitude. J'ai très naïvement exprimé l'état où je me trouvais à ma mère, en compagnie de qui j'étais, et qui m'a dit de ne confier ces sortes de choses qu'à elle. « Ma chère petite, » a-t-elle ajouté, « le bon goût est autant dans la connaissance des choses qu'on doit taire que dans celle des choses qu'on peut dire. » Cette recommandation m'a fait comprendre les sensations sur lesquelles nous devons garder le silence avec tout le monde, même peut-être avec notre mère. J'ai mesuré d'un coup d'œil le vaste champ des dissimulations femelles. Je puis t'assurer, ma chère biche, que nous ferions, avec l'effronterie de notre innocence, deux petites commères passablement éveillées. Combien d'instructions dans un doigt posé sur les lèvres, dans un mot, dans un regard. Je suis devenue excessivement timide en un moment. Et quoi ? Ne pouvoir exprimer le bonheur si naturel causé par le mouvement de la danse ? Mais, fis-je en moi-même, que sera-ce donc de nos sentiments ? Je me suis couchée triste. Je sens encore vivement l'atteinte de ce premier choc de ma nature franche et gaie avec les dures lois du monde. Voilà déjà de ma laine blanche laissée au buisson de la route. Adieu, mon ange !